Comme dans un livre, Marie-Christine Loubry. Dracula, de Bram Stoker. Roman traduit de l'anglais par Lucienne Molitor. Chapitre 15. Journal du docteur Seward. Suite. Le choc pour moi fut considérable, mais Van Helsing, lui, demeura impassible. Plus que jamais, il savait qu'il avait raison. « Vous me croyez à présent, mon cher John, vous êtes convaincu ?» Je sentis se réveiller en moi mon penchant naturel à la discussion. « Je suis convaincu que le corps de Lucy n'est pas dans le cercueil, mais cela ne prouve qu'une chose. »« Laquelle, mon cher John ?»« Eh bien, que le corps n'est pas dans le cercueil !» Le raisonnement est juste, mais comment expliquez-vous, comment pouvez-vous expliquer qu'il ne soit pas là? Peut-être s'agit-il d'un voleur qui déterre les cadavres, ou peut-être le corps a-t-il été volé par les hommes de l'entreprise des pompes funèbres. Mais je m'en rendais compte, je ne disais que des sottises. Et pourtant c'était la seule explication que je trouvais. Le professeur soupira. « Bon, fit-il, il nous faut donc une autre preuve. Venez avec moi. » Il remit en place le couvercle du cercueil, rassembla ses outils, souffla la bougie et la laissa tomber dans le sac avec les outils. Nous ouvrîmes la porte et sortîmes. Il referma la porte à clé, puis il me tendit la clé. « Vous voulez la prendre ?» me demanda-t-il. « Peut-être alors ne douterez-vous plus. » Je me mis à rire, d'un rire peu joyeux, je le reconnais, en lui faisant comprendre d'un geste qu'il pouvait la garder. « Une clé, dis-je, qu'est-ce que ça signifie ?» Il en existe peut-être plusieurs exemplaires. Et en tout cas, cette serrure ne doit pas être difficile à crocheter. Sans répondre, il mit la clé en poche. Alors il me dit de me cacher non loin de là, derrière un if, afin d'observer ce qui se passait, tandis que lui-même irait surveiller l'autre partie du cimetière. Une fois derrière l'if, je vis s'éloigner sa silhouette sombre, puis les arbres et les monuments funéraires m'empêchèrent de la distinguer. Cette solitude m'impressionnait. J'entendis sonner minuit à un clocher lointain, puis une heure, puis deux heures. J'avais froid, j'en voulais à Van Helsing de m'avoir entraîné dans un tel lieu, et je m'en voulais encore plus d'avoir accepté d'y venir. Et si j'avais trop froid, et si j'avais trop sommeil pour observer très attentivement tout ce qui pouvait se passer autour de moi, je n'étais pas assez endormi pourtant pour ne pas remplir la tâche que le professeur m'avait confiée. De sorte que, de toute façon, les moments que je passais furent des plus pénibles. Soudain, comme je me retournais, j'eus l'impression de voir comme une traînée blanche qui se glissait entre deux ifs de l'autre côté du tombeau. En même temps, se précipitant vers elle, une masse sombre arriva de l'endroit où se trouvait le professeur. À mon tour, je voulus avancer, mais il me fallut contourner des tombes et je trébuchais plus d'une fois. Le ciel était couvert et un coq chanta au loin. À quelque distance, derrière les genévriers qui bordaient l'allée menant à l'église, apparut une silhouette blanche, à vrai dire presque indistincte, qui s'en venait vers le tombeau. Celui-ci m'étant caché par des arbres, il me fut impossible de voir dans quelle direction la silhouette avait disparu. Mais bientôt, j'entendis que l'on marchait réellement à l'endroit même où était passée la silhouette blanche, et je vis, avançant vers moi, le professeur qui tenait dans ses bras un tout jeune enfant. Dès qu'il fut près de moi, il me le montra et me demanda. « Eh bien maintenant, est-ce que vous me croyez ?»« Non. »« Vous ne voyez donc pas cet enfant ?»« Si, je vois cet enfant. Mais qui donc l'a amené ici ? Et est-il blessé ?»« Nous le saurons bientôt, » me répondit le professeur. Et sans nous consulter, nous nous dirigeâmes l'un et l'autre vers la sortie du cimetière, Van Helsing portant l'enfant. Nous nous arrêtâmes sous un bosquet d'arbres, où à la flamme du allumette, nous examinâmes la gorge de l'enfant. On n'y voyait pas la moindre égratignure. « Est-ce que je n'avais pas raison ?» demandai-je, triomphant. « Nous sommes arrivés à temps, s'écria Van Helsing, visiblement soulagé. Qu'allions-nous faire de cet enfant? Si nous le portions à un poste de police, il nous faudrait, à tout le moins, expliquer comment nous l'avions trouvé. Nous décidâmes plutôt de l'emmener dans la lande. Dès que nous entendrions approcher un agent de police, nous abandonnerions le bambin à un endroit où l'homme ne manquerait pas de le voir et nous rebrousserions chemin sans perdre une minute. Tout se passa au mieux. À peine arrivés sur la lande, nous entendîmes le pas lourd d'un policier et après avoir étendu l'enfant dans le sentier, nous attendîmes cachés jusqu'à ce que sa lanterne éclairant soudain le pauvre petit, l'agent de police poussa un cri d'étonnement. Rassurés alors sur le sort de celui que nous venions de sauver de justesse, nous nous éloignâmes en silence. Nous eûmes la chance de trouver presque aussitôt un fiacre et nous revînmes en ville. Incapable de m'endormir, j'ai relaté ces faits. Mais je vais malgré tout essayer d'avoir quelques heures de sommeil, car Van Helsing doit venir me prendre à midi. Il veut que je l'accompagne dans une autre expédition. Septembre. Il était 2 heures passées quand enfin nous avons pu risquer cette seconde tentative. L'enterrement prévu pour midi venait de se terminer et les retardataires avaient lentement franchi la grille du cimetière lorsque, de derrière le buisson qui nous servait de cachette, nous vîmes le fossoyeur qui refermait la grille à clé avant de partir à son tour. Nous savions qu'à partir de ce moment, nous étions parfaitement libres d'agir comme nous l'entendions, et cela jusqu'au lendemain matin. Mais le professeur m'avertit qu'une heure, tout au plus, nous suffirait. Comme la veille, j'éprouvais le sentiment de l'horrible réalité des choses, où tout effort de l'imagination semble vain. Je savais parfaitement qu'en accomplissant cette tâche sacrilège, nous encourions les sanctions de la loi. Et en outre, j'étais persuadé de l'inutilité de tout cela. S'il avait été odieux d'ouvrir un cercueil de plomb pour voir si celle qu'on y avait mise après 8 jours auparavant était réellement morte, c'était maintenant pure folie que de vouloir à nouveau entrer dans le tombeau, maintenant que nous savions, l'ayant vu de nos yeux, que le cercueil était vide. Cependant, je préférais ne rien dire de ce que je pensais, car lorsque Van Helsing s'était mis quelque chose en tête, rien ne pouvait l'en détourner. Il prit la clé, ouvrit la porte du caveau, et comme la veille, s'effaça poliment pour me laisser passer. L'endroit ne paraissait pas aussi affreusement lugubre que pendant la nuit, et pourtant, quel air misérable lui donnait le faible rayon de soleil qui pénétrait par l'entrebâillement de la porte. Van Helsing s'approcha du cercueil de Lucie, et je fis de même. Se penchant de nouveau, il retira la partie du cercueil de plomb qu'il avait sciée. Alors, quelle ne fut pas, encore une fois, ma surprise mêlée d'horreur. Lucie était étendue là, telle exactement que nous l'avions vue la veille de son enterrement, et même, chose étrange, d'une beauté plus radieuse que jamais. Je ne pouvais pas croire qu'elle fût morte. Les lèvres étaient aussi rouges, non, plus rouges que de son vivant, et les joues délicatement colorées. « C'est un tour de passe-passe » demandai-je. « À présent, vous êtes convaincu ?» me dit Van Helsing en guise de réponse, et, tout en parlant, il tendit la main vers la morte. D'un geste qui me fit frémir, il releva les lèvres, découvrit les dents blanches. « Regardez, » reprit-il, « regardez, elles sont devenues plus pointues. C'est avec celles-ci, » et il touchait les canines, « qu'elle a mordu les enfants. Vous ne pouvez plus en douter maintenant, n'est-ce pas, mon cher John ?» À nouveau, je voulus discuter, réfuter ce qui lui paraissait si simple et qu'il m'était absolument impossible d'accepter. « Peut-être est-on venu rapporter ici son corps depuis la nuit dernière ?»« Ah oui ? Et qui donc, je vous prie ?»« Qui ? Je n'en sais rien. Mais quelqu'un est venu la replacer dans son cercueil. » En outre, elle est morte depuis une semaine. La plupart des morts, après autant de jours déjà, auraient pris une autre apparence. À ceci, je ne sus que répondre. Van Helsing, pourtant, ne parut pas remarquer mon silence. En tout cas, il ne manifesta ni dépit ni satisfaction. Il regardait attentivement le visage de la morte, soulevait les paupières, examinait les yeux, et encore une fois, il entr'ouvrit les lèvres pour examiner les dents. Il se tourna alors vers moi et me dit « Il y a pourtant quelque chose de différent de tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Nous nous trouvons en présence d'un dédoublement de la vie que l'on ne rencontre pas souvent. Cette jeune fille avait été mordue par le vampire alors qu'elle était en état d'hypnose, de somnambulisme. Oh, vous sursautez. Il est vrai que cela, vous l'ignoriez, mon cher John, mais je vous expliquerai plus tard. Et c'est lorsqu'elle était dans un état d'hypnose qu'il devait revenir lui sucer plus de sang encore. C'est toujours en transe qu'elle est morte, et en transe qu'elle est devenue une non-morte. C'est en cela qu'elle ne ressemble pas aux autres. D'habitude, lorsque les non-morts dorment chez eux, et il fit du bras un geste très large comme pour me rappeler que c'était dans les cimetières que les vampires étaient chez eux, leur visage révèle ce qu'ils sont, mais celui-ci, qui était si doux avant que Lucie fût une non-morte, retournera au néant, notre fin à tous. Rien ici ne semble porter la marque du malin, et c'est pourquoi ce m'est ainsi dur de voir de la tuer pendant qu'elle dort. Je sentis mon sang se figer, et je m'aperçus que je commençais à accepter les théories de Van Helsing. Pourtant, si elle était réellement morte, devait-on frémir à l'idée de la tuer ? Il leva les yeux sur moi. Sans aucun doute, j'avais changé de sentiment, car il me dit sur un ton presque joyeux « Ah, vous me croyez, maintenant ?»« N'allez pas si vite, » lui répondis-je. « Je veux bien accepter votre idée, je veux bien réfléchir. Comment allez-vous faire ?»« Je vais lui couper la tête et remplir sa bouche d'ail. » Puis je lui enfoncerai un pieu dans le corps. Je frémissais de plus en plus à cette idée qu'on allait mutiler ainsi le corps de la femme que j'avais aimée. Toutefois, mon émotion n'était pas telle que je l'aurais cru. Je commençais à frissonner en réalisant la présence de cet être, de cette non-morte, comme l'appelait Van Helsing. Elle me devenait exécrable. L'amour serait-il soit tout subjectif, soit tout objectif ? Un temps qui me sembla interminable se passa avant que Van Helsing ne se mît à l'œuvre. Il restait là, immobile, absorbé dans ses pensées. Finalement, il ferma son sac d'un geste sec et dit « J'ai réfléchi. Il faut agir pour le mieux. Si je suivais mon inclination, je ferais immédiatement, oui, maintenant, à l'instant même, ce qui doit être fait. Mais il faut penser aux conséquences, et de celles-ci peuvent découler mille fois plus de difficultés que nous ne l'imaginons. C'est évident, Lucie n'a encore tué personne, mais ce n'est sans doute qu'une question de temps. Si j'agissais maintenant, ce serait la mettre à jamais hors de danger. Mais d'autre part, nous devrons sans doute avoir recours à Arthur, et alors comment lui expliquer tout ceci? Si vous, qui avez vu la blessure à la gorge de Lucie et celle les mêmes de cet enfant que l'on a transporté à l'hôpital, si vous, qui la nuit dernière avez vu le cercueil vide, mais qui aujourd'hui y voyez à nouveau celle qui, une semaine après sa mort, n'est devenue que plus belle, plus fraîche, plus colorée de visage, si vous, qui avez constaté tout ceci de vos propres yeux, et avez également, la nuit dernière, aperçu la silhouette blanche qui a amené l'enfant jusque dans le cimetière, et qui, malgré tout, pouvez à peine en croire vos yeux, comment alors espérer qu'Arthur, qui lui n'a absolument rien vu, pourrait y croire? Méfiant, il s'est demandé pourquoi je l'ai empêché d'embrasser la jeune fille au moment de sa mort. S'il m'a pardonné, c'est parce qu'il croit que c'est à la suite d'un diagnostic erroné que je l'ai empêché de lui dire adieu. Et maintenant, il pourrait croire que, par erreur également, elle a été enterrée vive. Enfin, que c'est nous, au comble de l'erreur, qui l'avons tuée. Et il soutiendra que c'est nous qui nous trompions du tout au tout, et qui l'avons tuée à force de vouloir avoir raison. De sorte qu'il sera de plus en plus malheureux. Cependant qu'il n'aura jamais de certitude absolue, ce qui est le pire de tout. Tantôt, il pensera que celle qu'il aimait a été enterrée vive, et alors ses cauchemars seront d'autant plus atroces qu'il y verra les horreurs qu'elle a dû souffrir. Tantôt, il se dira que nous avons peut-être raison, que sa bien-aimée était, après tout, une non-morte. Ah, je le lui ai déjà dit, mais à présent, j'en suis certain. Il lui faudra traverser bien des amertumes avant d'atteindre le bonheur. Le pauvre garçon, hélas, vivra une heure où, pour lui, le ciel sera le plus noir. Mais ensuite, nous pourrons enfin agir en sorte que, jusqu'à la fin de ses jours, il connaisse la tranquillité d'esprit. Oui. Maintenant, allons. Vous, retournez soigner vos malades. Moi, je reviendrai passer la nuit ici, dans ce cimetière. Et demain soir à 10h, vous viendrez me chercher au Berkeley Hotel. Je vais écrire un mot à Arthur pour lui demander d'y venir également, de même qu'à ce jeune Américain qui lui aussi a donné son sang. Tous, nous aurons beaucoup à faire. Je vous accompagne jusqu'à Piccadilly, où nous mangerons un morceau, car je veux être de retour ici avant le coucher du soleil. Nous refermâmes donc à clé la porte du tombeau, puis nous nous dirigeâmes vers le mur du cimetière, que nous eûmes tôt fait d'escalader, et nous reprîmes le chemin de Piccadilly. Lettre laissée par Van Helsing dans sa valise au Berkeley Hotel et adressée au docteur John Seward. 27 septembre. Mon cher John, j'écris ces lignes à votre intention, au cas où il m'arriverait malheur sans que je vous aie revu. Je retourne au cimetière, surveiller les abords du tombeau. Je voudrais que la non-morte, Mademoiselle Lucie, ne le quitte pas cette nuit, afin que demain soir, son envie d'en sortir n'en soit que plus grande. Aussi vais-je attacher à la porte du tombeau ce que la non-morte n'aime pas, de l'ail et un crucifix, et cela suffira à garder la porte fermée, croyez-moi. Mademoiselle Lucie n'est qu'une jeune non-morte, et elle se méfiera. D'ailleurs, l'ail et le crucifix l'empêcheront seulement de sortir, mais non pas d'avoir envie de sortir. Je resterai là toute la nuit, depuis le coucher du soleil jusqu'après l'aurore, de sorte que s'il y a quelque chose à apprendre, je l'apprendrai. En ce qui concerne Mademoiselle Lucie, soit pour elle-même, soit venant d'elle, je n'ai aucune crainte. Mais quant à cet autre qui l'a rendue non morte, celui-là a maintenant le pouvoir de chercher sa tombe et de s'y réfugier. Il est extrêmement rusé, j'en ai la preuve, non seulement par le récit de Jonathan, mais par les diverses façons dont il nous a joué lorsqu'il y allait de la vie de Mademoiselle Lucie, et c'est nous qui avons perdu la partie. De fait, le non-mort est toujours très fort. Dans sa seule main, il a la force de 20 hommes. Et c'est en vain que nous quatre, l'un après l'autre, avons donné notre sang à Mademoiselle Lucie. En outre, il a le pouvoir d'appeler son loup, et je ne sais encore quelle autre créature. Bref, s'il vient au cimetière cette nuit, il m'y trouvera. Il se peut toutefois qu'il ne cherche même pas à y venir. Son terrain de chasse est plus giboyeux que le cimetière où dort cette jeune non-morte et où veille le vieillard que je suis. N'importe, j'écris ces lignes pour que, si jamais... Prenez tous les papiers que vous trouverez avec cette lettre, le journal de Harker et les autres, et lisez-les. Ensuite, essayez de trouver ce fameux non-mort, coupez-lui la tête, brûlez-lui le cœur ou percez-le d'un pieu, afin que le monde soit à tout jamais débarrassé de lui. Adieu donc, peut-être. Van Helsing. Journal du docteur Seward. 28 septembre. Une nuit de sommeil est un étonnant bienfait à la vérité. Hier, j'acceptais presque les idées monstrueuses de Van Helsing. À présent, elles me paraissent un outrage au bon sens. Je ne doute pas que lui-même croie à tout ce qu'il raconte, mais je me demande s'il n'a pas le cerveau un peu détraqué. Pourtant, il doit y avoir quelque explication rationnelle à toutes ces choses apparemment si mystérieuses. Se pourrait-il que ce soit l'œuvre du professeur lui-même? Il est d'une intelligence à ce point extraordinaire que si jamais il perdait la tête, il accomplirait son dessein, quel qu'il fût, avec une obstination que rien ne pourrait fléchir. Cette pensée me déplaît. Et vraiment, quelle chose surprenante si l'on découvrait que Van Helsing est fou. De toute façon, je vais l'observer attentivement. Il faut que j'aie quelques lumières sur cet autre mystère.